Bonjour, bonjour et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 décembre et on va parler aujourd'hui de la patinoire. Et oui, c'est le moment, il fait froid, ça y est, c'est l'hiver et c'est le moment d'aller patiner du côté de Saint-Loup du Torat. Mais aussi le Noël qui arrive forcément et Noël qui sera peut-être moins évident pour les personnes isolées ou à la rue. Mais heureusement, un Noël solidaire est mis en place à Laval vendredi, on va en parler. Sujet aussi d'une chronique proposée par Andy League, une chronique autour de la Ligue des Champions avec les affiches françaises. Qu'est-ce qui est prévu pour les huitièmes de finale en ce mois de janvier? Et puis évidemment, on continue notre feuilleton, donc avec un nouvel épisode à la fromagerie du Haut-Anjou à Biernay. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec la Mayenne qui devient le département le plus fibré de l'Ouest avec 322 armoires de fibre optique déjà installées et raccordées dans le département. La dernière a été installée hier à Attillé et grâce à cette première étape, 80 000 logements sont déjà éligibles à la fibre en Mayenne. Ils seront 115 000 d'ici fin 2022. Un motard décédé hier après une collision à Vège. La voiture et la moto se sont percutées hier midi, route de Cham. Le conducteur de la voiture n'a été que légèrement blessé, mais celui de la moto, âgé de 68 ans, a été héliporté vers le CHU d'Angers. Il est malheureusement décédé dans la nuit. Plus de trains entre Laval et Le Mans. Depuis 10 jours, de nouvelles dessertes TER ont été mises en place. Et concrètement, un train supplémentaire circule en semaine entre Le Mans et Laval. Il arrive à 17h10 en gare de Laval. Et le week-end, deux allers-retours supplémentaires sont proposés. Départ de Laval à 9h20 et 16h20. 17% des Lavallois vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le résultat d'une analyse du Centre communal d'action sociale de la ville de Laval. Le rapport parle de surreprésentation des familles monoparentales, mais aussi des populations âgées, sans oublier les difficultés d'accès à l'emploi pour les 18-24 ans. Quel nouveau nom pour le nouveau pôle culturel lavallois? Eh bien, c'est à vous de choisir entre le 40, le numéro de la rue où il est situé, la Villa L ou le Crédit Foncier, puisque ce sont les anciens locaux de cette banque qui accueilleront donc ce nouveau pôle culturel. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour voter en ligne sur le site de l'agglomération de Laval. Et puis Gouron, elle, est la ville la plus sportive des Pays de la Loire dans sa catégorie des communes de moins de 4000 habitants. Ce n'est pas une première puisqu'elle avait déjà obtenu ce titre en 2001 et 2009. Gouron qui a atteint le niveau 4 flammes sur 5 pour ce label ville sportive et un label qui récompense donc la ville et évidemment son nombre de licenciés. Ils sont 1750 dans la ville répartis dans 22 associations. Et justement parmi les sports proposés, alors ça m'étonnerait qu'il y ait du patinage, du patin à glace, mais en tout cas vous pouvez en faire toute cette semaine et pendant toutes ces vacances à Saint-Loup-du-Dorat, dans cette commune du sud-est mayennais. Une patinoire synthétique est installée depuis une semaine. Une initiative de Thomas et Anne-Lise Racine, les gérants de la boutique chez Alice à Saint-Loup-du-Dorat donc. Ils avaient déjà ouvert un escape game dans un labyrinthe de maïs l'été dernier et voulait créer aussi une animation l'hiver, animation qui a déjà rencontré son public, selon Thomas Racine.
On a beaucoup de familles qui viennent depuis le début. Ce qui est chouette, c'est que les enfants et les parents peuvent s'amuser, glisser ensemble, tomber ensemble aussi, rigoler ensemble. Donc c'est vraiment une activité qui est chouette, qui est ludique. Les enfants apprennent plus vite que les parents, donc ça permet aux enfants d'apprendre aux parents, ça change un peu la donne pour une fois. Et tout le monde s'amuse et on finit avec un petit chocolat chaud et c'est très très sympathique. Pour l'installation de la patinoire, il fallait démonter le décor de cette année plus labyrinthe. Et puis ensuite, il a fallu décaisser, ramener de la pierre parce qu'on était sur un terrain naturel. Donc il fallait rendre ça sec et propre. Ensuite, on a monté une plateforme technique avec la famille et les copains, parce qu'il y a beaucoup la famille et les copains qui nous aident. Et puis ensuite, on a loué la surface technique chez X-Trice, qui est une patinoire de dernière génération en synthétique, avec un technicien à eux. On l'a monté également avec la famille et les amis. C'est, un mois et demi de travail, sans compter le démontage d'avant. Ça vaut le coup, oui, parce que là, on a un retour qui est direct avec des gens qui sont vraiment ravis, heureux et qui n'arrêtent pas de nous remercier d'avoir proposé cette activité ici à Saint-Loup. Les gens viennent un peu partout. C'est d'un point de vue économique, non. Après, nous, on a le magasin qui est à côté. Ça nous fait un bon coup de projecteur. On a beaucoup de gens, des locaux, on va dire, à une 25 km autour de Saint-Loup-du-Dorat. On a pu voir des gens du Mans également venir. Le matin, on était sans réservation. Et puis l'après-midi, il y a 4 créneaux, en fait. C'est sur réservation. Il y a un petit SMS à envoyer pour demander l'heure de passage qui permet de limiter la jauge à 50 pour deux raisons. La distanciation et la problématique Covid. Et la deuxième raison, c'est qu'on reste, que ça soit agréable sur la glisse. Nous, on a décidé de limiter à 25 personnes sur la patinoire pour avoir un vrai spot de glisse.
Un vrai spot de glisse, évidemment accessible à partir de 3-4 ans avec déluge mise à disposition. Grâce à l'embauche de 2 saisonnières, la patinoire est ouverte tous les jours jusqu'au 9 janvier, hormis le 25 décembre évidemment. Des écoles du coin viendront même tester la patinoire, ça ce sera début janvier. Et on va parler de ce Noël solidaire mis en place à Laval, j'allais dire par la ville de Laval, non, mais en tout cas dans Laval. Ce sera vendredi prochain, ce sera juste après avoir écouté Buridet avec leurs morceaux, parfois on recule.
Je passe avant, je peux connaître la suite. La fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique. Pourquoi ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire au sempiternel? Que choisir, que faire? Le silence qui s'ensuit me désespère. Je veux pas savoir, je veux pas connaître les suites. Merci, mais l'issue n'est pas ce qui m'excite. Se convaincre des choses, puis de leur contraire. Aller se paumer, et comment satisfaire ce besoin de toujours plus vert. Un jour à l'endroit, l'autre à l'envers. Mais parfois, l'amour recule. La peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois, on recule. De peur que les choses basculent, on recule. On recule, parfois on recule. Je veux pas savoir, pas qu'on m'explique que ce déroulement suit la logique. Qu'il faut que la transition opère. Un peu de patience, y'a rien d'autre à faire. Que plus tu freineras tes quatre fers, et plus tu en feras un enfer. Je veux pas connaître la suite. Donc soit je m'arrête, soit je m'implique. On voudrait bien qu'il arrive quelque chose. Se résoudre à des fins même à l'apothéose. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un tour. L'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule. De peur que les choses basculent. On recule. On recule. Parfois on recule. Parfois on recule. Mais parfois on recule. La peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule. De peur que les choses se basculent. On recule. On recule. Parfois on recule. Parfois on recule. Parfois on recule.
Parfois on recule. Buridan ou Buridan peut-être d'ailleurs, je ne connais pas cet artiste en tout cas, que vous venez d'entendre dans la JT du local. Évidemment, vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et lorsqu'on est isolé, comment faire pour que Noël ne soit pas une source d'angoisse? C'est pour essayer de pallier ce problème et de rassembler les Lavallois seuls, sans domicile ou précaire, que Waïda Ayash a lancé en 2017 le Noël festif et solidaire de Laval. Après une annulation en 2020, il revient cette année et aura lieu vendredi tout l'après-midi au quartier Ferrier. L'occasion de revenir sur la naissance de cette idée et l'importance de l'événement avec son instigatrice.
Donc Roïda Ayash, l'organisatrice du Noël solidaire à Laval.
Et donc ce sera le quatrième Noël solidaire cette année ici à Laval. La première édition a eu lieu en 2017, je crois. Comment est née cette idée ?
Alors, elle est née tout simplement, c'est vraiment parti sur un coup de tête, hein, 9 jours avant Noël. Donc, c'était quelque chose déjà qui me pesait, on va dire, avant, hein, de me dire qu'il y avait des personnes qui pouvaient passer les fêtes seules. On arrive à une certaine période, on a tendance à entendre tout le temps, bah alors, qu'est-ce que tu fais pour Noël ? Voilà. Et on se dit, bah, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne font rien, qui sont isolées. Et puis, bah, les personnes à la rue rentrent dans les logements d'urgence, il ne se passe rien pour eux. Donc, il y avait beaucoup, voilà, il y avait tout ça qui me chagrinait. Moi, j'ai le surnom du Grinch, hein, la plupart du temps. Tout le monde sait que je ne suis pas très Noël, parce que moi-même, j'ai connu aussi ces moments un peu difficiles. J'ai quitté jeune ma famille qui vit à l'étranger, donc j'étais arrivée en France toute seule. Et du coup, c'était voilà beaucoup de, c'était assez compliqué les fêtes de Noël pour la peine. Et voilà. Et c'est comme ça à peu près en regardant une énième pub à la télé qui parlait d'un célèbre soda qui montrait la solidarité dans la rue avec vous savez des publicités où il y a les tables dehors avec les chaises hein, où tout le monde fête Noël ensemble. En fait, j'étais avec un ami et j'étais encore en train de râler, en train de dire « mais c'est pas possible, ces pubs complètement fausses, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est plutôt devenu une fête où on est très centré sur soi, sur sa propre famille, et on oublie un petit peu tous ceux qui peuvent pas ». Voilà, j'étais un peu en train de broyer du noir. Et puis, c'est comme ça où un ami me disant « bah tu sais, en même temps, moi j'ai toujours rêvé de faire un Noël comme on voit dans ces pubs, et puis moi je… » Je lui ai répondu tout simplement, on va le faire ce Noël. Et puis voilà, c'était à 9 jours du Noël solidaire du tout premier. Et j'ai fait un appel sur ma page Facebook pro à l'époque. Et là, je ne pensais pas avoir autant de retours. Tout s'est fait en 9 jours. Ça a été extrêmement difficile. Mais pour l'organisation, bien sûr, hein, parce que pour avoir un lieu où pouvoir le faire, accueillir, qu'il y ait la sécurité. Moi, je ne suis pas une association. Hein, faut savoir que c'est vraiment un acte citoyen. Il n'y a pas de numéro de tirette, enfin voilà, c'est vraiment une personne lambda qui dit bah, on va regrouper du monde et puis on va faire un Noël. Donc ce Noël, il est vraiment né, on va dire, de. C'est grâce aux dons, sinon il ne verrait pas le jour ce Noël. C'est vraiment les dons d'Emma Yenné qui font que ce Noël peut exister, en fait. Donc voilà, en 9 jours, on l'a fait et on pensait accueillir à peine, je ne sais pas, moi, quand on me demandait une notion, je disais, je sais pas, peut-être 60 personnes à tout casser. Et encore, s'il y a 30 personnes, ça sera bien. Et en fait, on s'est retrouvé à 192 personnes au moment où le Noël devait commencer. Et puis, on a arrêté de compter, quoi. Parce qu'à la fin, on pouvait même plus, on avait même plus assez de tickets pour compter la jauge. Et on était, Square de Boston, en plein milieu du Square de Boston, avec des barnums. Ça, c'était le premier Noël. Et puis après, à chaque Noël, c'était minimum 200 personnes, parce que de toute façon, on ne pouvait pas aller au-delà par rapport aux jauges des salles. Parce qu'après, on a pu le faire au quartier Ferrier, on a pu le faire au CMA. Et à chaque fois, ouais, on voit toujours autant de personnes venir, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui dépendent des dispositifs d'urgence, des personnes qui sont dans l'isolement, des personnes âgées qui passeraient leur Noël tout seules. Enfin, on voit tout type de profil arriver. C'est juste une grande famille, voilà. On va dire ça comme ça. On devient une très, très grande famille à fêter Noël ensemble, avec nos différences, la mixité, et c'est ça qui est super, en fait.
On voit que c'était aussi attendu. Si dès la première année, il y a eu autant de monde, c'est que c'était quelque chose qui manquait, peut-être, d'avoir un moment vraiment où se retrouver tous ensemble.
Complètement. Je pense qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on devait être plusieurs à penser ça. On devait être rien que par l'afflux des dons, hein. C'est là où ça m'a rassurée. Je me suis dit, déjà, ça veut dire qu'on est nombreux à penser à ça, mais qu'on est tous pris au quotidien et qu'on n'a pas forcément le temps, en fait, hein, tout simplement, ou qu'on ne sait pas par quoi commencer, et que des fois, il suffit d'une personne qui lance, et puis, les autres se joignent, parce que toute seule, j'aurais jamais pu le faire. Moi, j'ai juste été, entre guillemets, à l'origine, mais si j'étais tout le temps toute seule, j'aurais jamais pu rien faire. On ne fait rien tout seul. Donc c'est vraiment la participation de tout le monde qui a fait que ce Noël a pu fonctionner. Et après, quand on voit le monde à être venu, on se dit, bah oui, heureusement qu'il existe, parce qu'en fait, il y a bien plus de personnes qui sont isolées qu'on l'imagine. Il y a la précarité, en effet, mais il y a aussi juste les personnes seules, l'isolement. Et là, je me dis, en plus, avec la crise sanitaire qui a isolé encore plus de personnes, il est presque essentiel de le faire, tout en respectant, par contre, on sera hyper rigoureux cette année sur les règles sanitaires. Il y aura une équipe qui sera dédiée qu'à ça. Hein. On a écrit un protocole qui est assez raide, mais ça ne va pas nous empêcher de nous retrouver, de passer un moment festif. C'est pas impossible, en tout cas, de respecter les gestes barrières et de se retrouver quand même voilà, de façon chaleureuse.
Comment vous allez justement vous débrouiller pour faire cette 4e édition tout en respectant les règles sanitaires quand même, malgré tout ?
Alors déjà, à l'entrée, en arrivant, il y aura une équipe, déjà il y aura une équipe dédiée. Hein. On l'appelle la team Covid. Ça sera des bénévoles qui seront dédiés qu'à ça, qu'à la surveillance, voilà, à l'explication, au rappel des gestes. Hein. Ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Ensuite, quand on va arriver sur place, il y aura des masques qui seront distribués, donc des masques jetables chirurgicaux à usage unique. Il y aura du gel hydroalcoolique dès l'entrée, avant de rentrer, puis à l'intérieur, et des bénévoles qui passeront avec. On va proposer, pour ceux qui le souhaitent également, il y aura la mise à disposition d'autotests gratuits sur place. Et puis, à l'intérieur de la salle, il y aura interdiction de consommation, c'est-à-dire pas de nourriture ni de boisson à l'intérieur. Donc, le masque ne sera jamais baissé. Il sera obligé d'être vissé sur le nez. On va disposer les tables de façon et les chaises à ce qu'il y ait la distanciation qui soit bien respectée. Et puis, on est en train de créer un circuit pour que tout le monde ne soit pas toujours entassé au même endroit, vu qu'il y aura des petites animations sur place pour les enfants. Et il y aura à l'extérieur aussi une possibilité de pouvoir boire une boisson chaude de façon maraude un peu, vous voyez, comme lors d'une maraude. Et puis à l'extérieur, il y aura aussi une équipe Covid qui demandera, comme à ce moment-là, les personnes pourront boire une boisson chaude, de bien s'espacer, de bien respecter une distanciation. Donc généralement, on compte en tout cas sur la volonté de tous. On sait que ça va bien se passer. Parce que les personnes l'attendent ce Noël, ils savent très bien que si on ne respecte pas ça, on ne peut pas le faire. Donc on reste assez confiant là-dessus. Et puis comme c'est des personnes qui pour la plupart fréquentent des lieux d'accueil, que ça soit de jour, de nuit, ces gestes-là sont déjà respectés sur les lieux où ils sont accueillis. C'est déjà le quotidien. Donc ça permettra de faciliter un petit peu plus ces choses.
Pas forcément de repas en tout cas cette année, mais malgré tout des animations. Qu'est-ce qui sera prévu sur cette journée de vendredi ?
Alors du coup, vous faites bien de rappeler, parce que j'ai pas du coup terminé, mais en effet, pas de restauration sur place. C'est-à-dire qu'au moment de quitter les lieux, l'association de la communauté des Comoriens de Mayenne va concocter des plateaux repas de l'entrée, le plat, le dessert, de nourriture comorienne, des spécialités comoriennes, et les personnes pourront partir avec cette préparation pour pouvoir le consommer le soir, sur les lieux où ils seront. Donc il y aura ce moment de repas, mais qui ne sera pas consommé sur place. Et sur place, donc en même temps que la distribution en extérieur des boissons chaudes, chacun aura un petit sac avec ce qu'il faut à l'intérieur pour un goûter, mais de façon individuelle, et à surtout pas consommer à l'intérieur. Et donc après, en animation, donc il y aura un stand qui sera réservé aux enfants dans un premier temps, celui-là on a finalisé. Donc, il y aura une bénévole qui sera là, qui fera de l'animation pour les enfants. Et pour le reste, on est encore en train de voir ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire par rapport au respect des gestes barrières. Donc, on est encore dans la discussion. Mais par exemple, les autres années, on avait la mise en beauté pour les femmes, on avait la manucure, on avait la coiffure. Voilà, il y avait plusieurs petites choses qui étaient mises en place à l'intérieur. Donc là, on est. D'autres personnes peuvent se joindre à nous, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à clôturer maintenant, parce que jusqu'au 23, comme c'est sous forme de bénévolat, les personnes peuvent se proposer pour venir donner une animation. Et cette année, par contre, à condition que les gestes barrières puissent être appliqués avec cet atelier et cette animation. Il y aura aussi de la musique, voilà, un moment festif, quoi. Et par contre, il y a le passage du Père Noël qui est prévu à 15h. Lui, il viendra avec la distribution de cadeaux pour les enfants et puis bah, des boîtes solidaires pour les adultes.
Comment est-ce qu'on peut vous aider justement, alors que ce soit peut-être sur les cadeaux, sur l'animation d'atelier, comment est-ce qu'on peut vous aider là si on entend l'interview?
Eh bien, nous, on a besoin du coup de, on va dire, des, vous savez, les petites boîtes solidaires qui se font un peu partout avec des petites choses à l'intérieur pour les personnes, pour les adultes, donc autour du soin, une petite écharpe, enfin ce qu'on a envie de mettre dedans, bien sûr. Hein. Donc ça, on a besoin pour pouvoir faire les cadeaux aux adultes. On a besoin aussi, on va dire, de décorations, hein, d'Irlande, de déco, de centre de table. On a besoin, là, ça s'adresse plutôt aux professionnels, on va dire, aux traiteurs, aux professionnels de la restauration. On recherche des barquettes, un traiteur et des plateaux qui puissent, où on puisse mettre ces barquettes pour le repas emporté. On a aussi besoin de tout ce qui est sopalin, serviettes individuelles. On a besoin de papier cadeau parce que le 23, on va passer la soirée à emballer des cadeaux pour que le Père Noël puisse les distribuer. On a aussi besoin de café soluble en sachet individuel, de lait, de cacao en sachet individuel, de thé, de sucre individuel parce qu'on essaye de tout mettre vraiment de façon emballée pour limiter les risques. Donc après, on a besoin de boissons aussi individuelles, hein, briques de jus d'orange, pommes, des coca, Oasis, Sprite, hein, de l'eau en petites bouteilles. On a aussi besoin de bonbons en sachet individuel, du brioche individuel, de chocolat en papillote. Hein. Après, il y a une page Facebook qui est le Noël festif et solidaire From Laval. Dessus, on rappelle chaque jour ceux qui nous manquent vraiment jusqu'au jour J.
Jusqu'au 23, en tout cas, on peut...
Voilà, jusqu'au 23. On peut nous aider, voilà, nous apporter de l'aide, que ça soit voilà sur des dons ou que ça soit voilà une proposition d'animation, ou que ça soit aussi pour venir aider le jour J. C'est l'équipe des luttes, hein, on est là et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on arrive de tous les horizons et que ce jour-là, on arrive à travailler ensemble pour pouvoir offrir un Noël aux personnes dans la précarité ou isolées.
Qui ont quelle réaction du coup à la fin? J'imagine que forcément c'est un moment apprécié, même s'il doit y avoir un peu de pudeur aussi, mais j'imagine que c'est apprécié.
Ah bah, c'est franchement très impressionnant. Moi, chaque année, tous, hein, on est très très émus chaque année parce qu'on ne s'y attend pas et il y a une sorte d'émotion en fait transmise. Il y a des personnes qui angoissent hein, beaucoup de temps avant cette fête-là parce que ça leur rappelle qu'ils sont seuls. Ils ont pas leur famille ou voilà, et c'est vrai que c'est un temps qui est angoissant hein, pour ces personnes-là. Ils fêtent aussi du coup Noël, hein. Donc il y a le fait de se retrouver comme ça, comme une grande famille, d'avoir des choses, de pas être isolé, ça ramène quelque chose. J'arriverai même pas à le décrire en fait. Chaque année, c'est plus fort que moi. Chaque année, j'ai les larmes qui coulent parce que c'est un moment qui est tellement exceptionnel que ouais, je peux difficilement décrire quoi l'émotion qu'on ressent, mais c'est un beau moment de partage, vraiment, un beau moment de fraternité. C'est un chouette moment, en tout cas. Humainement, c'est un super moment.
Et on rappelle donc ce Noël solidaire qui se tiendra vendredi de 13h à 17h30 au bâtiment 13 du quartier Ferrié à Laval. Et pour y participer ou aider l'organisation à votre manière, rendez-vous sur la page Facebook Noël festif et solidaire From Laval. Vous avez jusqu'à demain soir pour y participer. Et bien sûr, n'hésitez pas donc à vous rendre donc sur cette page Facebook. Décidément, est-ce que je nage aujourd'hui? Oui, on va dire que c'est le mercredi, c'est le jour de la natation et donc je nage dans l'émission, mais je nage jusqu'à la prochaine pause musicale assurée par Paul McCartney avec Pretty Boys.
Look into my lens, give me all you got, work it for me baby, let me take my best shot. Meet the pretty boys, a line of bicycles for hire, objects of desire. Working for the squire, you can look, but you better not touch. Cause here come the pretty boys, they
gonna set your world on fire, object of desire. Preaching to the choir, they can talk, but they never say much. Strike another pose, try to feel the light. Hey, the camera loves you, don't put up a fight.
Pretty Boys de Paul McCartney que vous venez d'entendre dans l'agité du local sur l'autre radio et qui nous a rejoint en studio. Andy avec nous, salut Andy.
Bonjour Marie.
Et on va parler aujourd'hui sport et plus précisément Ligue des Champions puisque la compétition continue avec le tirage des huitièmes de finale.
Et oui, après les phases de groupe de Ligue des Champions, les équipes ayant fini première et deuxième de leur poule sont qualifiées pour le prochain tour. Tandis que les clubs qui ont fini 3e sont directement renversés en Europa League, comme d'ailleurs le Barça qui ne sera pas en 8e de finale pour la première fois depuis 17 ans. Le tirage a donc été réalisé le 13 décembre par deux fois puisqu'il y a eu une erreur lors du premier tirage. Et parmi les affiches, certaines sont bien sûr plus attirantes que d'autres, comme le PSG qui affrontera le Real de Madrid, le Liverpool-Inter de Milan ou encore le Bayern qui se frottera à l'Atlético de Madrid. Et même s'il existe plusieurs autres affiches, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les affiches des clubs français.
Et justement, combien de clubs français sont qualifiés ?
Eh bien cette année, Marie, il y en aura deux, avec bien sûr le PSG, mais aussi les Lillois. Comme je l'ai dit juste avant, le PSG affrontera le Real de Madrid, et cela a déjà l'air d'un choc autant sportif, dans lequel nous allons voir des stars mondiales telles que Mbappé, Messi, Verratti, Marquinhos d'un côté, et Benzema, Vinicius Junior, Modric ou encore Kroos de l'autre. Mais ce sera aussi un choc dans le dossier Mbappé, car rappelez-vous, le Real de Madrid a longtemps lutté pour l'achat du jeune joueur français durant le mercato estival, ce qui n'a finalement pas abouti après de multiples refus de la part du club français. Mais est-ce qu'un résultat négatif du côté de Paris pourrait accélérer un départ de Mbappé qui ne semblait pas insensible au charme du club madrilène ?
Et Andy, est-ce que là déjà il y a une des deux équipes qui ressort un peu par rapport à l'autre ?
Eh bien pas vraiment, les deux équipes se trouvent actuellement premières de leur championnat respectif, avec chacune un matelas assez confortable. Et c'est donc très compliqué de sortir un réel favori dans cette double confrontation. Dans tous les cas, un gros sera éliminé après ses huitièmes de finale et on espère juste qu'il ne sera pas français. Match aller le 15 février à Paris et match retour à Madrid le 9 mars. Et maintenant, parlons de l'autre club qualifié, c'est donc Lille. Le club du Nord a arraché la première position de sa poule après un super parcours contre Séville, Salzbourg, mais aussi Wolfsburg.
Donc de qui ont hérité les Lillois ?
Eh bien malheureusement, pas de chance pour les Lillois. Ils ont hérité de Chelsea, l'un des deuxièmes les plus forts. Même si sur le papier, le tenant du titre Chelsea donc, sort clair favori, car ils sont dans une meilleure dynamique. Ils sont 3e de Première Ligue alors que Lillois peine vers la 10e position en Ligue 1. On sait très bien que les matchs de Ligue des Champions peuvent porter toute une équipe. La preuve, c'est que Lille galère en Ligue 1, mais qu'ils excellent lors des rencontres européennes. Notons aussi que les surprises ne sont pas rares dans cette compétition. Lille doit donc y croire et se donner à fond. C'est maintenant à l'équipe de Jocelyn Gouvernec de se donner les moyens pour réaliser l'exploit et éliminer le tenant du titre. Match aller le 22 février à Londres et match retour à Lille le 16 mars. Et pour évoquer les autres affiches, bien sûr, on aura un Manchester City Sporting Lisbonne, un Bayern Munich RB Salzbourg, un Villarreal Juventus et enfin un Ajax Amsterdam Benfica Lisbonne.
Autour de belles affiches dont on a retrouvé à partir du mois de février. Merci beaucoup Andy pour cette chronique sport complète autour des affiches françaises en 8e de finale de Ligue des Champions. Retour des chroniques sport désormais, oui on peut le dire, ça y est, ah oui, j'ose faire la blague, l'année prochaine seulement. Évidemment, à partir de janvier pour ces chroniques sport. On va passer en tout cas mercredi, nous sommes mercredi donc, 3e épisode de notre feuilleton à la fromagerie du Haut-Anjou à Biernay. Fromagerie, vous le savez, qui a repris son activité il y a 1 an et demi après plusieurs années en sommeil sous l'impulsion de Dominique et Gilles de Valicourt qui ont très vite embauché le fromager Max Aidet. Après nous avoir raconté son parcours hier, on va s'intéresser aujourd'hui au processus de fabrication de la collecte du lait bio dans les fermes alentours jusqu'à la vente de ces fromages.
Alors nous, on collecte une fois par semaine environ 3000 litres. Et après, ça varie en fonction des besoins, des productions qu'on a envie de faire. Et pour connaître le nombre de kilos de fromage qu'on produit à partir de X litres de lait, il faut diviser par 10. Donc on fait 300 kilos de fromage à partir de 3000 litres de lait. C'est une moyenne parce qu'il y a des fromages qui contiennent plus d'eau. Pour celui-là, par exemple, il faut 8 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage. Alors que pour la pâte pressée cuite, il faut entre 12 et 13 litres de lait. Il faut plus de lait parce que bah, le lait, ça contient beaucoup d'eau, en plus de matières grasses et protéiques. Et dans ces fromages-là, il y a très peu d'eau. Donc c'est plus dense en matière grasse et en matière protéique, c'est plus calorifique. Alors une fois qu'il arrive ici, ou bien il est pasteurisé ou bien il est dépoté en cru. Donc quand on dit dépoté en cru, ça veut juste dire qu'on le transfère dans des tanks de maturation. J'utilise que du vocabulaire technique, je suis désolé. Les tanks de maturation, c'est pour que les bactéries travaillent. C'est des citernes dans lesquelles on met le lait, plus les bactéries d'affinage et d'acidification, donc les bactéries avec lesquelles le fromager va travailler, pour que là pendant la nuit, donc là on les a mises tout à l'heure vers midi, pendant la nuit, ces bactéries vont se développer. Donc, réception du lait, éventuelle pasteurisation, ou sinon lait cru, puis développement des bactéries d'acidification et d'affinage, des bactéries fromagères. Ensuite, demain, on va réchauffer le lait, on va le mettre à la température souhaitée selon le type de fromage qu'on veut faire. On contrôle, on regarde un peu le lait, on regarde l'acidité, on regarde s'il y a de la remontée de matière grasse, comme ça on sait ce qui va nous attendre en fabrication. Là, on met la présure. Donc la présure, c'est ce qui va faire que le lait devient en quelques minutes... forme un gel, comme une sorte de flan, et du coup ça fait du lait solide. C'est au bout de 15 minutes, après avoir mis la présure, tac, on met la main dedans et c'est dur. Au bout d'un certain temps, donc là on regarde à la main, quand on sent que le cahier est suffisamment ferme, on va découper. Donc là, l'objectif c'est de découper le gel en grains plus ou moins grands, selon le type de fromage qu'on veut faire. Ces grains, ensuite ils sont brassés, et puis quand on a la bonne taille de grain, la bonne texture de grain, et d'autres paramètres, je ne vais pas non plus rentrer dans trop de vocabulaire. Quand on a suffisamment brassé, on moule. Donc là, on enlève une partie du sérum et on met le cahier dans les moules. Donc les moules qui continuent à laisser passer du sérum pour que le cahier se condense. Tous ces petits grains de cahier qui sont dans le moule, ils vont se réassocier pour former le fromage. Donc ça, c'est ce qu'on va faire demain. Après-demain, ensuite, on démoule. On sort le fromage du moule, on le sale et là commence l'affinage. L'affinage le plus rapide qu'on peut avoir, c'est une dizaine de jours pour le crémeux d'Anjou. Et le plus long, là, on a du fort d'Anjou affiné 12 mois.
12 mois d'affinage maximum pour l'instant. Forcément, hein, compte tenu de l'ancienneté de la fromagerie aussi. Mais des tests vont être faits avec des affinages un peu plus longs, allant peut-être jusqu'à 2 ou 3 ans. Et demain, je vous propose une petite dégustation à l'aveugle, enfin plutôt par le son d'ailleurs, de ces différents fromages. Ce sera... donc lors de notre 4e épisode de ce feuilleton. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Mais ne partez pas, puisqu'à 19h, il y a Novorama. Ce sera suivi à 21h de D'Eclectic Jazz avec un entretien avec le guitariste Gabriel Gosse pour son premier album Flow et avec Stéphane Portet, le directeur du Sunset Sunside. Et nous, évidemment, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.